à 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeur de Canet Radio, bonjour, il fait beau, ça sent les beaux jours, le printemps, on sent que l'été est bientôt là, et donc c'est le moment de notre émission à 23 pas du mystère. Ça n'a rien à voir, mais j'aime bien ce genre de lancement complètement fou. Alors, émission consacrée au polar et la science-fiction, messieurs, dames, émission mensuelle, vous commencez à avoir l'habitude. Donc on va laisser la parole au maître de cérémonie, l'ami Jérôme, pour nous dire, mais de quoi parle-t-on aujourd'hui, Jérôme ?
Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue à 23 pas du mystère. Après Sherlock Holmes et Vidocq dans nos émissions précédentes, nous allons poursuivre notre archéologie du roman policier. Et cette fois, nous allons passer de l'autre côté de la loi avec un personnage,
enfin
ouais, avec un personnage célèbre apparu à la Belle Époque. J'ai nommé Arsène Lupin,
trop bien.
Que nous allons évoquer avec un invité, Georges Lajara, que je vais présenter.
Bonjour.
Dans une seconde partie, nous retrouverons nos fidèles chroniqueurs. Alors dans l'ordre, Gilles Poussin pour la bande dessinée, qui va évoquer un géant de la littérature fantastique illustré par un géant de la bande dessinée.
Suspense.
Ensuite, Geek Patrick, qui va nous parler d'un classique qu'il vient de découvrir, Mieux vaut tard que jamais.
Exactement.
Et pour finir, Miss Lemon, qui va nous parler de l'étoffe d'un détective privé portugais.
Bonjour Miss Lemon.
Bonjour à vous.
Très bien, c'est formidable.
C'est parti.
Qu'est-ce qu'on fait, on se lance ?
On y va.
Un petit jingle.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
On vous écoute.
Donc pour évoquer le héros de cette émission, Arsène Lupin, nous accueillons Georges Lajara. Bienvenue Georges.
Merci.
Qui est membre de l'association 813, les Amis des littératures policières, qui tire son nom d'un célèbre roman du cycle Arsène Lupin, et qui est, donc Georges est aussi un lupinologue averti.
Trop bien,
qui va nous faire partager ses connaissances autour de ce personnage appartenant à la culture populaire. Donc pour resituer brièvement le personnage, je rappelle qu'il est apparu le 15 juillet 1905 dans la revue Je sais tout. Donc ce cambrioleur mondain qu'on dénomme aussi gentleman cambrioleur. Mmh. Arsène Lupin est un des plus fameux personnages de la fiction policière de la Belle Époque.
Tout à fait.
Toujours très populaire en ce premier quart du XXIe siècle.
Ouais.
Et ses aventures constituent pour de nombreux jeunes lecteurs un point d'entrée dans la littérature policière, au même titre qu'Agatha Christie.
Mais du côté du voleur cette fois-ci, c'est ça aussi l'originalité.
Et de l'aventure policière.
Ouais, ouais.
Donc Lupin, c'est le héros de 16 romans, je vais juste citer les plus célèbres, L'aiguille creuse en 1909, 813 en 1910, qui a donc donné son nom à l'association des littératures policières, et La comtesse de Cagliostro en 1924. Mmh. Et ajoutons que le dernier roman de la série Lupin est paru en 2012, parce qu'il y a un manuscrit inédit qui a été retrouvé dans les archives de Maurice Leblanc.
Par sa petite fille.
Qui avait été écrit vers 1936-1937 et qui a été publié...
Excuse-moi, entre 1910 et 1924, il n'en a pas publié du tout ?
Ah si, il a publié en 1941.
D'accord, tu n'as cité que les plus emblématiques.
Oui, voilà, c'était les principaux romans. Il y a aussi une quarantaine de nouvelles qui ont été rassemblées en 5 recueils. Et donc tout cela écrit par le créateur d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc. Et cet ensemble forme ce qu'on appelle le canon lupinien.
C'est comme ça qu'on dénomme ça.
Donc le canon est formé de ces romans et de nouvelles écrites par l'auteur. Mais à côté de ce canon lupinien, et très tôt, dès 1909, le personnage a été repris par d'autres romanciers, français, anglo-saxons et d'autres nationalités, qui ont imaginé également des aventures d'Arsène Lupin.
Et donc du vivant de Maurice Leblanc.
Oui, dès le vivant
mais
de Maurice Leblanc.
Mais il donnait son accord ou il le faisait sans lui demander son avis? Tu ne sais pas ça, je t'ai coincé.
Non, moi je pense qu'il ne demandait pas à l'époque.
Incroyable, à l'époque il pouvait se permettre. Oui. Incroyable.
Et donc c'est de cette appropriation du personnage par d'autres auteurs que son créateur, donc ce qu'on appelle communément des pastiches, mais qu'on peut appeler aussi des continuations, mm-hmm. un peu dans l'esprit du Moyen-Âge, qui est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Donc d'accord. on va pas parler du Lupin de Maurice Leblanc, mais du Lupin vu par d'autres auteurs
ah, oui.
que Maurice Leblanc, d'où l'intérêt de notre émission.
D'accord.
Alors on va partir de notre point de départ, ça va être les 10 commandements de l'apprenti pasticheur lupinien qui ont été énoncés par le romancier et critique littéraire Michel Lebrun en 1971.
D'accord.
Qui a défini 10 critères permettant de définir le personnage d'Arsène Lupin mmh. et qui servent à mesurer le degré de similarité et ou de différence des autres gentlemen cambrioleurs par rapport au modèle.
D'accord. Ouais. D'accord, voilà. Voir s'ils respectent ou pas la totalité du canon ou partiellement.
Tout à fait. Alors avant de dénoncer ces critères, on oui. va peut-être se mettre dans l'ambiance de la Belle Époque avec d'accord. une chanson d'Aristide Bruant qui va évoquer les Apaches de la Belle Époque.
C'est parti.
Trois Apaches par Aristide Bruant. Les avistreux du quartier de la ville 12, les barbillons trinquaient à la santé. T'as de leurs photos qui décoraient sans trousse, et l'on chantait vive la liberté. Ohé, les apaches, à nous les sages, les langues avirones, les longes d'assassins, pour le bidon des roussins, et pour le ventre des casseroles. Tant pis pour vous, messieurs de la raclette, tant pis pour vous, messieurs les collégiens, faut pas chercher les garçons de la Villette, car leurs couteaux sont pas faits pour les chiens. Ohé, les apaches, à nous les sages, les langues avirones, les longes d'assassins, pour le bidon des roussins, et pour le ventre des casseroles. D'abord, nous autres, on fait pas de politique. On vote toujours pour le gouvernement. On se fout du roi comme de la République, pourvu qu'on puisse travailler tranquillement. Ohé, les apaches, à nous, les sages, les langues avirones, les longes d'assassins, pour le bidon des roussins et pour le ventre des casseroles.
Voilà, ça gratte, ça sent le cabaret malfamé. C'était les chants d'Apache d'Aristide Bruant qui évoquaient les mauvais garçons de la Belle Époque, appelés les Apaches.
À 23 pas du mystère.
Calade. Vous écoutez à 23 pas du mystère sur Caladma Radio, l'émission mensuelle consacrée au polar et à la science-fiction. Notre dossier spécial aujourd'hui avec l'invité Georges est consacré à Arsène Lupin. C'est formidable, j'adore Arsène Lupin. Jérôme, vas-y.
Alors, rentrons dans le vif du sujet avec ces 10 commandements de l'apprenti pasticheur lupinien. Georges, on t'écoute, tu vas nous présenter ces commandements.
Alors, le premier commandement, gentleman toujours restera, dimanche et fête mêmement.
Bon, effectivement, pour un gentleman cambrioleur,
ça s'impose.
Ça va tout à fait.
Deuxième, escroc cambrioleur sera, mais toujours sympathiquement.
Voilà. Oui, voilà. Ça, c'est sa marque de fabrique.
Troisième, bandit et canaille dépouillera, mais jamais les honnêtes gens.
Ah ouais. Alors,
ça, c'est un petit peu contestable. Parce
ça dépend des moments.
Il y a ouais. quand même nombreux membres.
C'est la règle,
il
y a des exceptions à la règle.
Voilà, il y a des gens sympas qui se sont ouais. fait voler. Oui.
Ils volent des riches, à moins de considérer tous les riches comme des canailles.
Mmh. Oh,
on serait d'accord.
Alors, quatrième, tes forfaits signera d'un Bristol très élégamment.
Alors, la classe. C'est une, j'appelle ça la classe.
Une main, oui, mais alors, c'est une marque de fabrique qui va lui le desservir dans une aventure dans 813, puisqu'on va assassiner un banquier et les malfaiteurs vont laisser un Bristol signé Arsène Lupin, qui n'a pas commis ce meurtre-là et qui va devoir
prouver son innocence.
Voilà, prouver son innocence.
Et c'est donc là qu'il va se transformer en enquêteur et en détective.
Oui, d'accord,
en fin de compte.
Génial.
Voilà. Alors le cinquième, veuve et orphelin défendra au péril de ta vie souvent.
Un bon exemple dans une nouvelle qui s'appelle La Dame à la hache, dans le recueil Les huit coups de l'horloge, où il va se porter au secours d'une jeune femme dont il est amoureux, qui a été enlevée par un tueur en série.
Waouh, carrément.
Tout à fait.
Sixième, homicide point ne sera, sauf exceptionnellement.
Effectivement, il y a une petite exception dans 813.
Dans 813.
Également,
Oui, c'est vrai qu'il ne tue pas.
Oui, hein.
Il y a des fois où il peut inciter des gens à se suicider. Donc, ce n'est pas vraiment un crime direct. Septième, en amour, toujours séduira, mais souffrira conséquemment.
Ah bah, comme
effectivement,
toujours.
Il a de nombreuses aventures amoureuses, à l'issue souvent malheureuses.
C'est un cœur d'artichaut.
Voire dramatique.
Que serait l'amour si on ne souffrait pas?
Voilà. Et on lui connaît d'ailleurs deux mariages avec Clarisse Détigue et Florence Levasseur.
Exactement. Huitième, xénophobe te montrera ton chauvinisme l'exigeant.
Ah ouais.
Alors on était d'accord avec Georges pour dire que xénophobe était peut-être un terme un peu fort qu'on remplacerait plutôt par
fier d'être français,
par
chauvin, patriote.
Patriote ou chauvin.
D'ailleurs, pendant la guerre 14-18, il va s'illustrer Arsène Lupin, voilà.
Ah ouais, OK.
Désinvolte et gouailleur sera jusque dans tes derniers moments.
C'est-à-dire dans toutes les situations, même les plus dramatiques,
D'accord.
Il y a un côté humour.
Ouais,
et enfin, en expert te maquillera pour mieux égarer les agents.
Ah oui.
Donc il a effectivement de multiples identités.
Un point commun avec Sherlock.
Alors.
34, et 34 identités différentes dans les romans de Marcel Lupin.
Dont une quand même qui est assez formidable, c'est qu'il prend un temps l'identité de Monsieur Lenormand, qui n'est autre que le chef de la sûreté parisienne.
Ah oui, oui, oui.
Un tour de force.
Et à tel point que souvent, on ne connaît pas, on ne peut pas décrire Arsène Lupin.
Arsène
Lupin change toujours d'aspect.
Le maître du déguisement, etc., des grimages.
Alors, on va donc passer à une petite sélection de pastiches que Georges a effectuées. Donc, c'est suivant ses envies et puis le temps aussi imparti dans cette émission. Il a sélectionné un certain nombre de pastiches qu'il va vous présenter et essayer de nous montrer les similarités avec le personnage, puis l'intérêt de ces textes-là qui vous incitent à redécouvrir.
Alors, actuellement, à ce jour, il y a plus de 250 romans et nouvelles qui mettent en scène Arsène Lupin et qui n'ont pas été écrits par Maurice Leblanc.
Wow.
Et ça se passe dans tous les pays. C'est un héros international. Et certaines même de ses œuvres n'ont jamais été traduites en français.
Ah bon ?
Voilà.
Ah
donc
oui, d'accord. Okay.
On a des auteurs brésiliens, indiens, russes, canadiens, américains, de tout le globe.
Mais ça se passe en France quand ces
auteurs-là... Oui, ça se passe en France.
D'accord.
C'est toujours
il se situe en France quand même.
Mais ça peut se passer aussi à des époques différentes, pas toujours à l'époque d'Arsène Lupin.
Tout à fait,
voilà. Et il y a donc différents aspects. Alors, le premier de ces pastiches est sorti en 1909, donc c'est très, très tôt, après l'apparition d'Arsène Lupin.
Après.
Voilà, c'est une nouvelle qui s'appelle « Un cœur dans une pince, Monseigneur », qui a été écrit par André Hélé, qui était un peintre de l'époque, qui a aussi travaillé dans des illustrés de l'époque. Et donc, cette nouvelle raconte l'histoire d'une jeune femme très riche qui raconte à ses amis les rencontres, les rencontres qu'elle fait avec différents personnages, qui s'appellent, alors qui portent des noms différents, le duc de Charmeras, le lord de Branvin, Horace Piuper, etc. Et à chaque fois qu'elle rencontre ces messieurs, un objet de valeur disparaît. et même une fois, c'est carrément un coffre-fort entier qui disparaît. Et tout cela ne l'empêche pas de tomber follement amoureuse de ce personnage. Évidemment, sous ses différents patronymes, se cache un même homme qui est Arsène Lupin. Hein. Et alors, je vais vous lire l'une des dernières phrases de la nouvelle qui est assez révélatrice. Arsène Lupin m'a enlevé cette nuit après m'avoir ravi. Ravi est une façon de dire qui ménage ma pudeur. Après m'avoir ravi, te dis-je, le plus précieux de mes biens, ou du moins ce qu'on est convenu de désigner ainsi. Tu devines duquel il s'agit.
On se doute un peu.
On peut se douter. Hein. Sinon, écoutez le gorille de Brassens. Voilà. Bon, donc ça, c'est donc le premier, en 1909. Et la même année, sort une novélisation de la pièce de théâtre qui a permis de faire connaître Arsène Lupin à la France entière. Et cette pièce de théâtre a été traduite, a été novélisée par un Anglais, qui s'appelle Edgar Jepson, un auteur anglais. Hein, et ce roman, hein, n'a été traduit en français qu'en 1995. Il a fallu attendre 86 ans avant d'avoir la version française.
Mais la pièce de théâtre, elle a été écrite par
en 1908.
Maurice Leblanc.
Oui, alors Maurice Leblanc.
En collaboration, Maurice Leblanc et Francis de Croisset, qui était un dramaturge.
Voilà, donc ils ont écrit donc cette pièce à tous les deux.
C'est incroyable, ils étaient gonflés à l'époque. Hein. Franchement, la notion de droit d'auteur, ça n'existait pas. Hein.
Alors il faut dire que en début de 1909, va sortir le texte de cette pièce de théâtre. Ouais. Hein. La pièce a été jouée en 1908, donc ça a été très rapide.
Hein.
Octobre 1908, c'est la première de la pièce. Début de 1909, l'écrit de la pièce. Et en fin 1909, la novélisation par Edgar Jepson,
hein,
qui met un petit peu du sien. C'est pas exactement la pièce. Ah. Hein, c'est arrangé un petit peu à sa sauce.
D'accord.
Mais c'est exactement la même intrigue qu'il y a dans cette pièce. Alors cette pièce, elle est importante parce que c'est elle qui a permis vraiment de populariser Arsène Lupin.
D'accord.
Elle a été jouée plus de 1000 fois, hein, avec le même personnage principal, le même acteur, hein, André Brulé, qui était un acteur très connu à l'époque, hein, et qui a lui-même donné son empreinte au personnage, parce que c'est lui qui a introduit le chapeau haute forme, la canne et la cape.
Ah.
Alors que Maurice Leblanc n'en parle pas.
Ouais, dans...
Et maintenant, nous, quand on s'imagine Arsène Lupin, on le voit toujours avec son haute forme, sa cape et sa canne à pommeau. Hein.
Ouais, ouais,
voilà. Donc ça vient d'André Brulé. Donc c'est intéressant de noter ça. Donc ça, c'était en 1909. On va passer en 1912, et là, on va traverser l'Atlantique avec une autrice américaine qui s'appelle Caroline Wells, qui a écrit 5 pastiches d'Arsène Lupin. Hein, où Arsène Lupin n'est pas le personnage principal, mais c'est l'un des personnages d'une société qu'elle a appelée la SIID, hein, la Société Internationale des Infaillibles Détectives, qui va essayer de résoudre des mystères. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va rencontrer dans cette société donc Sherlock Holmes, qui en est le président, évidemment, et puis toute une série de personnages de fiction, hein, de l'époque. Hein. On va rencontrer, évidemment, Dr. Watson, le biographe de Sherlock Holmes. Il y aura Arsène Lupin. Il y aura Arthur Raffles, hein, qui est un gentleman cambrioleur. Qui est donc un personnage
Arsène Lupin,
qui a été créé par le beau-frère de Conan Doyle.
Hein,
ça c'est quelque chose. Et on se demande si c'est pas un peu le modèle d'Arsène Lupin.
Hein, peut-être. Oui.
Il a le professeur Augustus Van Dusen, qu'on appelle la machine à penser. Il y a Dupin, hein, le personnage d'Edgar Poe. Il y a Lecoq, le personnage de Gaboriau. Il y a Rouletabille. Hein, voilà. Il y a plein de personnages. Et puis, il y a un personnage réel qui est dans cette société dont vous avez parlé la dernière fois. C'est Vidocq.
Ah ouais, carrément.
Et donc cette assemblée de personnages un peu enquêteurs, etc.
C'est les Avengers de l'enquête.
Voilà, exactement. Donc, ils vont essayer de résoudre des mystères comme le vol de la Joconde. Voilà. Il y a donc deux de ces nouvelles qui ont été traduites. Il y en a trois autres qui n'ont pas encore été traduites. Donc, ils tentent d'étudier des affaires improbables. Mais là, on est dans le pastiche humoristique.
D'accord.
Alors, Voilà, donc ça, c'était donc Caroline Wells. Alors, 1912 et 1915. Mmh. Et puis alors, on va faire un grand bond dans le temps, là, parce qu'on va passer dans les années 70 avec deux auteurs français qui ont reçu l'autorisation de la famille Leblanc.
Des endroits, donc.
Voilà, voilà, des endroits. Donc, Florence Leblanc, qui est la petite fille de Maurice Leblanc.
Ouais.
Donc, l'autorisation donc, de concevoir, sous forme d'habile pastiche, des nouvelles aventures d'Arsène Lupin.
Alors, je voulais juste préciser que le choix de ces auteurs n'était peut-être pas innocent, parce qu'en fait, l'un des deux, Thomas Narcejac, avait déjà écrit en 1946 une nouvelle mettant en scène Arsène Lupin, donc sans l'autorisation sans doute des ayants droit, qui s'appelle L'affaire Oliviera, qui est parue dans un recueil de pastiches de différents auteurs.
D'accord.
Ça s'appelle Confidence dans ma nuit. Donc là, il revient, il avait déjà amorcé l'affaire Arsène Lupin, et maintenant il est validé, autorisé par la famille. Il se lance là-dedans avec son compère Boileau.
Voilà, c'est les fameux Boileau-Narcejac.
Alors Boileau-Narcejac, justement, c'est donc la signature commune de deux auteurs, hein, Pierre-Louis Boileau et Pierre Hérault, dit Thomas Narcejac, qui sont des auteurs de romans policiers connus. Hein, en particulier, on peut en citer deux, trois, qu'ils ont écrits de leur côté. Hein, Les Visages de l'ombre, Celle qui n'était plus, qui a donné les diaboliques, avec
ça,
un film...
Ils sont célèbres par leurs adaptations cinématographiques.
D'Entre les morts.
Chez Clouseau.
Alors, D'Entre les morts, qui a donné Sueur froide de Hitchcock.
Oh, c'est vrai.
Voilà. Wow. Donc, ça, c'est du Boileau-Narcejac. C'est quand même du lourd.
C'est du lourd, ouais.
Voilà. Alors, donc, ils ont écrit cinq romans, c'est des romans,
d'accord,
c'est pas des nouvelles,
ouais,
cinq romans. Je vais vous dire deux mots sur les deux premiers.
Ouais. Hein.
Parce que le premier, ça a vraiment été un coup de maître. Hein. Il est sorti en 1973, ça s'appelle Le secret d'Honnerville, et il a eu le prix Mystère de la critique. Donc, qui est un des prix pour les romans policiers, l'un des prix majeurs, l'un des prix importants. Où donc là, on va rencontrer Raoul Dapignac, qui est l'un des pseudonymes d'Arsène Lupin, qui essaye de voler dans un château, le château d'Honnerville, des tableaux, en laissant de côté quand même les faux, parce qu'il y a aussi des faux.
C'est un de goût.
Et donc, par maladresse, il va déclencher une alarme, et rien ne se passe. Donc, il a la trouille, mais rien ne se passe. Et il se rend compte que tous les habitants de ce château sont drogués. Et en regardant par la fenêtre, il voit qu'il y a des personnes, des malfrats qui sont en train d'enlever une personne du château. Et donc, ça va l'emmener à enquêter. Sur
son vrai casquette d'enquêteur.
Voilà, qu'est-ce qui se passe là? D'autant plus que l'héritière du château est une jolie demoiselle intéressante et qui l'intéresse. Et donc là, il va falloir faire une enquête un peu qui va les conduire loin dans le passé, dans l'histoire de France.
D'accord.
Voilà, ça, c'est Le secret d'Honnerville. Et le deuxième, je vous en dis aussi un tout petit mot, ça s'appelle La Poudrière, qui est sorti l'année d'après, en 1974. Et là, donc, ça se passe à Paris, en 1912, au départ. Le prince Paul Cernine. Alors, Paul Cernine, c'est l'un des pseudonymes d'Arsène Lupin.
Ouais.
Et c'est un anagramme d'Arsène Lupin.
Ah, d'accord.
Paul Cernine, voilà. Donc, alias Arsène Lupin, qui va donc sauver une jeune femme, encore, que deux malfrats veulent dépouiller. Et donc, cette jeune femme va lui raconter l'histoire de sa sœur cadette, qui a un roman d'amour avec l'archiduc Michel, qui est le fils du roi de Serbie. Et donc, ça va mélanger une intrigue un peu historico-politique intéressante. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce que dans ce roman, on parle de Lyon.
Ah oui.
C'est pas souvent. Je vous dis, le mot qu'on voit, donc de Lyon, oui, de Lyon, oui, il ne faut pas le micro,
le micro.
Alors, le prince Cernine connaissait bien Lyon. On se rappelle sans doute l'affaire Lemercier, qui était en haleine l'opinion publique en 1900 et quelques, il n'y a pas la date. Voilà. Depuis ce temps-là, quand du moins sa vie aventureuse lui en faisait le loisir, il ne perdait aucune occasion de s'arrêter dans cette ville opulente et secrète dont il aimait les lointains brouillés, la fine mélancolie et le charme désuet. Il descendit place Bellecour à l'hôtel du Rhin, maison cossue où les clients étaient des amis. Et la canne à la main, un cigare aux lèvres, voilà, etc. Il se rendit à un rendez-vous. Voilà.
Lyon, les secrets,
voilà.
On retrouve classique de la réputation de Lyon.
Et puis un autre élément intéressant dans ce roman, c'est qu'une grosse partie de l'intrigue se déroule à Pérouge. Voilà, dans une sorte de château à Pérouge.
Dans l'Ain, pour resituer nos auditeurs qui ne seraient pas de la région.
Pérouge, une cité médiévale.
Une audience médiévale, internationale. Très réputée.
Voilà. Ouais, mais je vous rappelle qu'on a une audience internationale.
Donc... c'est extraordinaire.
Voilà. Dans La Poudrière. Je continue.
Oui.
Alors, en changeant complètement de thème, je vais parler d'un roman qui fait partie d'une série de trois romans. C'est un roman un peu de fantaisie uchronique. un peu steampunk, qui s'appelle Le Paris des Merveilles, d'accord, de Pierre Pével. Il y a trois romans, okay, qui se passent dans un Paris imaginaire. C'est un pastiche fantastique, en fin, d'accord, de compte. Alors, dans l'univers du Paris des Merveilles, il existe des passerelles entre l'outre-monde, le monde magique, le monde onirique et le monde des humains. Voilà. Il y a une guerre entre des fées, des dragons, des créatures. Alors, au départ, on se croirait dans le Paris d'aujourd'hui, mais quand même différent, parce que la Tour Eiffel, elle est faite en bois blanc. Il y a des sirènes dans la Seine. Il y a des farfadets au bois de Vincennes. Et la magie est présente tout le temps. Les magiciens sont des composants de la vie parisienne. Et là, on va suivre les aventures d'un de ces magiciens, d'un de ces mages, qui s'appelle Louis Denisa Hippolyte Griffon, qui va enquêter parce qu'on l'accuse de certains meurtres. Et qui est-ce qui va venir l'aider à trouver un petit peu les solutions? Eh bien, c'est le duc de Charmeras, qui est un des pseudonymes de Arsène Lupin. Exactement.
Incroyable.
Voilà, et donc c'est vraiment une forte cohésion entre ces personnages.
Rappelez-nous comment il s'appelle celui-ci?
Le livre, alors, ça s'appelle L'élixir d'oubli.
D'accord.
C'est le deuxième tome du Paris des Merveilles.
De Pierre Pével.
D'accord. Voilà.
On mettra les coordonnées.
Voilà, le premier tome. Voilà, c'est intéressant. Donc, ceux qui aiment un peu le domaine, un peu de l'imaginaire,
oui, tout à fait,
on est en plein
oui,
dedans.
C'est intéressant.
Voilà. Voilà, aussi en changeant complètement. Alors, c'était en 2004, donc on se rapproche de nous. En 2015, Adrien Goetz, qui est un historien de l'art, un universitaire, a écrit aussi, toujours en ayant l'approbation des héritiers de Maurice Leblanc, La nouvelle vie d'Arsène Lupin. Et là, ce qui est assez bizarre, c'est que ça se passe à notre époque. Arsène Lupin a traversé les décennies. Pendant plusieurs décennies, il ne s'est pas manifesté, mais il est bien présent. Dans les années 2010, il va se révéler au public. Et donc là, il y a un mystère, mais comment peut-il être présent en 2010?
A-t-il trouvé un élixir de longue vie?
Eh bien, exactement. On se rappelle que dans ses aventures précédentes, il a rencontré Joséphine Balsamo, la comtresse de Cagliostro, et où il y a quand même un élément de fantastique.
Oui, tout à fait. Autour du personnage, Cagliostro.
Et donc, il va donc faire des cambriolages assez exceptionnels. Par exemple, quand c'est une suite de nouvelles, il y a plusieurs nouvelles. Et chaque nouvelle commence, c'est l'un des titres des romans.
Voilà, c'est ça qui porte les titres des romans.
Voilà. Et donc, par exemple, dans la première nouvelle, il va carrément cambrioler la façade complète de la cathédrale de Strasbourg. Voilà, c'est quand même pas mal. Et puis on va passer là-dessus. La Joconde est aussi en danger.
Bien sûr.
Voilà. Et il va rencontrer Paul Beautrelet, qui se trouve être le petit-fils d'Isidore.
Isidore.
Voilà, qu'on avait rencontré dans L'Aiguille Creuse.
Le jeune homme qui poursuit la même quête qu'Arsène Lupin.
Exactement.
D'accord.
Voilà. Voilà. Rapidement, en changeant encore complètement d'espace et de temps, un petit mot sur Le Grand Arcane des Rois de France de Jean Daillon. En 2015, Jean Daillon, c'est un auteur de polar historique bien connu, qui se passe à différentes époques en France, avec des héros récurrents. Et là, le héros dont on va avoir connaissance s'appelle Louis Fronsac. Louis Fronsac, ça se passe à Paris en 1663.
Ah oui.
Et il va être dévalisé par une certaine Anne Lupin. Anne Lupin, qui en plus va avoir des soucis avec des espions anglais, en faisant référence à son arrière-grand-père, Philippe Lupin, qui aurait rencontré Henri IV en 1589 à Étretat. Wow. Et donc, on a une sorte de road movie, où on a d'un côté les agents anglais qui poursuivent Anne Lupin, Louis Fronsac qui veut récupérer ses biens, etc. Et tout va s'arrêter, devinez où? À Étretat. Et Anne Lupin est considérée comme une ancêtre d'Arsène Lupin.
D'accord. Elle a un peu le style d'Arsène Lupin.
Elle a un peu le style, oui, elle a un peu le style. Donc
elle préfigure, alors.
Voilà, tout à fait. C'est une famille de cambrioleurs. Voilà.
Très bien.
Et puis, donc, dans les dernières années, là, il y a Frédéric Lenormand, qui est un auteur assez prolifique, qui a écrit toute une série de... qui a repris le Justy à une époque.
Oui, tout à fait, de Van Gulik.
Voilà. Et puis, qui a aussi une série de romans où Voltaire est l'enquêteur, qui a écrit 5 romans avec Arsène Lupin comme personnage principal.
D'accord, très bien. Écoute, Georges, on te remercie beaucoup pour tous ces détails. On vous rappelle que toutes les références des ouvrages cités se retrouveront sur notre podcast avec des références bibliographiques. Voilà, donc on te remercie pour toute cette érudition. Et puis, peut-être qu'on te retrouvera dans une prochaine émission sur un autre sujet, puisque tu connais beaucoup d'autres choses en dehors d'Arsène Lupin.
Merci, Georges.
Merci.
Merci. Merci à vous.
À 23 pas du mystère.
Calade. Eh bien, nous voici arrivés à la partie chronique de notre émission. Assuré toujours par les fidèles Geek Patrick et dans le désordre, Geek Patrick pour la science-fiction.
Car c'est dans le désordre.
Miss Lemon pour l'étoffe du héros et Gilles Poussin pour la BD. Donc cité dans le désordre le plus total qu'on va remettre dans le bon ordre.
On va remettre dans le bon ordre, là, c'est foutoir.
Donc bienvenue, chers chroniqueurs, chères chroniqueuses.
Merci.
Nous démarrons avec la bande dessinée aujourd'hui, tiens, on va changer un peu l'ordre des choses. Donc Gilles va nous parler d'un, comme je le disais en introduction, d'un géant de la littérature fantastique, Lovecraft.
Ah, Lovecraft, tu l'avais pas dit tout à l'heure, c'était le suspense.
Mais non, c'était le suspense.
Formidable, Lovecraft.
Qui est donc illustré par un autre géant, lui, de la bande dessinée, Philippe Drouillet.
Ah, effectivement, voilà. C'est autre chose.
À toi, Gilles.
Ok.
Le poussin s'en mêle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft. Il était né en août 1890, il nous a quittés en mars 1937, ce qui lui fait quand même une mort assez prématurée, puisqu'il est mort à 46 ans. Et c'est quelqu'un de absolument fondamental pour la littérature qui nous occupe, car il a influencé un nombre incalculable d'auteurs, aussi bien dans évidemment dans la littérature, mais aussi dans la bande dessinée, dans le cinéma, dans la musique aussi. Et donc ça fait quelqu'un de, on va dire, d'assez copieux. Alors Howard était né le 20 août 1890 à Providence dans l'état de Rhode Island. Il était fils unique son père s'appelait Winfield Scott Lovecraft. C'était un commerçant ambulant qui vendait des bijoux, des métaux précieux, et puis sa mère Sarah Susan Phillips, d'où son nom Howard Phillips Lovecraft. Avait une généalogie de Massachusetts en 1630. Alors, ses parents s'étaient mariés assez tardivement, pour l'époque en tout cas, à l'âge de 30 ans. Et en 1893, alors que Lovecraft n'avait que 3 ans, son père était en voyage d'affaires et il a été atteint de démence dans un hôtel de Chicago. Alors, il a été ramené à Providence, il a été placé dans un hôpital où, d'ailleurs, il est resté jusqu'à sa mort en 1898. L'anecdote sur le mental de Lovecraft, cette disparition prématurée du père, qu'on attribue en fait à la syphilis. Et c'est vrai que c'était un voyageur de commerce, quoi, donc il avait peut-être quelques tentations. Et Lovecraft a toujours un peu, parce qu'il était assez bloqué, même complètement bloqué au niveau sexuel, Lovecraft, on peut le dire. C'est-à-dire que son œuvre est vraiment passionnante, mais l'aspect sexuel, on va dire, a été développé bien plus tard par des gens comme Alan Moore ou d'autres écrivains. Et puis, une fois le père, on va dire, mis hors d'état, il est élevé par sa mère et deux tantes qui vont être très importantes pour lui, et puis aussi par son grand-père maternel. Et tous les cinq, ils résident dans la même maison. Et il est Lovecraft vraiment très doué pour les poèmes. Dès 3 ans, il commence à les réciter, il en écrit dès 6 ans. Et puis son grand-père l'encourage à lire. Et alors, il lui procure des classiques comme les Mille et une nuits, des versions pour enfants de l'Iliade et de l'Odyssée. Et puis, il raconte aussi ses propres histoires, le grand-père. Donc, aussi une influence majeure pour le jeune Lovecraft. Il est souvent malade. Il a on dira, une condition physique médiocre. Il ne va pas à l'école avant l'âge de 8 ans. Et puis, il est même retiré après, parce que visiblement, il y a des soucis. Donc, il lit beaucoup d'écrits scientifiques et astronomiques. Il entre quand même au lycée de Hope Street. Et puis, il commence à souffrir de terreurs nocturnes. Et évidemment, tout de suite, on pense à ses œuvres futures, hein, ça a dû grandement l'influencer. Alors, le grand-père. Ben, le grand-père, il décède assez prématurément en 1904. Alors, mauvaise gestion du patrimoine, donc ils sont obligés de déménager. Toute la famille, donc la mère, lui et ses deux tantes. Et puis, finalement, il passe pas son diplôme de fin d'année, pardon. Il aurait aimé devenir astronome, mais il avait des problèmes avec les mathématiques. Donc, tout ça pour dire il se renferme quand même. Alors, il commence à écrire. On a retrouvé son plus ancien conte qui s'appelle La Bête dans la caverne, qu'il a achevé en 1905. Et puis, il écrit beaucoup de poésie à ce moment-là, de 1908 à 1913, excusez-moi. Enfin, ce qui nous intéresse le plus, c'est il contacte ce qu'on appelait à l'époque des pulp magazines, que, chers auditeurs, vous connaissez évidemment, ce terme. Et donc, il contacte Argosy. Et puis, finalement, il va aussi commencer à travailler dans des fanzines, parce que les fanzines existaient déjà à cette époque, du début du XXe siècle. Il adhère à une association et il grimpe très vite. Il devient rédacteur en chef et président de cette association, donc littéraire, mais évidemment amateur. Et puis, finalement, il retourne à la fiction et c'est là donc en 1917, il écrit La Tombe et Dagon, si vous préférez, qui est un de ses textes les plus connus. Et puis il commence à bosser beaucoup pour une revue, toujours un pulp magazine, qui s'appelle Weird Tales, à partir de 1923. Alors, le problème qu'il a avec Weird Tales, c'est qu'il s'entend très mal avec le rédacteur en chef. Et donc, il y a beaucoup de refus, mais en même temps, il commence à avoir des correspondances avec toutes sortes d'auteurs qui sont encore tout jeunes, hein, à l'époque. Donc, des gens comme Robert Bloch, Clark Ashton Smith, ou alors, et là surtout, Robert Howard, donc créateur de Conan. Après, en 1919, ben, la mère de Lovecraft, elle aussi, elle part à l'hôpital. Hein, donc, il y avait quand même un problème dans la famille. Elle décède, pardon, en 1921. Alors là, on arrive, si vous voulez, dans la période où il va quand même un peu bouger, parce que n'oublions pas que Lovecraft, on l'appelle souvent le reclus de Providence. Là, il bouge. Au cours d'un congrès de journalistes amateurs à Boston, il rencontre celle qui deviendra sa femme. Car oui, Lovecraft a été marié. Même si la chose ne l'intéressait guère. Cette jeune personne s'appelle Sonia Green. Ils se marient donc le 3 mars 1924 à New York. Et puis ils aménagent à Brooklyn. Alors les tantes de Lovecraft tirent un peu la tronche parce qu'elles apprécient pas tellement que leur neveu se marie avec une commerçante. C'est-à-dire que quand même c'était des gens d'essence qui se voulaient supérieurs, en tout cas voilà de la classe supérieure. Malgré ça, bon, il reste quand même à New York, il s'y plaît. Sauf qu'ils ont un gros problème, c'est le problème financier. Parce que lui, il rapporte que dalle au niveau revenu. Et c'est Sonia qui alimente, on va dire, voilà, les besoins du couple. Sauf qu'elle perd son commerce, elle est en mauvaise santé et elle part à Cleveland pour trouver du travail. Donc lui, il se retrouve tout seul dans le quartier de Red Hook à New York. Et ça, là, on peut dire psychologiquement que, à la fois, ça va être très intéressant au niveau créativité, mais en même temps, c'est là qui commence à avoir des penchants racistes, voire antisémites, qui sont extrêmement désagréables, de notre point de vue, enfin, en tout cas du mien. Et finalement, il se plaît pas parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de mixité, beaucoup de migrants, comme on dit aujourd'hui. Et finalement, avec Sonia, il divorce à l'amiable. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est pas sûr. Et puis surtout, il retourne à Providence. Voilà. C'est l'expérience new-yorkaise, ça lui a suffi. Il préfère son petit coin de Rhode Island là. Et donc, il retourne. Donc, c'est là que, d'ailleurs, l'adresse dans un de ses romans, un de ses rares romans, parce qu'il a énormément écrit, mais surtout des nouvelles. L'adresse du docteur Willett dans l'affaire Charles Dexter Ward, c'est l'adresse où il vivait avec ses tantes. Alors finalement, ce qu'on peut dire pour Lovecraft, sur le côté biographique, c'est que c'est quelqu'un qui a finalement beaucoup écrit de lettres, de journaux, de carnets. On en a retrouvé 60 000. Vous imaginez? Incroyable. Et par contre, au niveau nouvelles, bon, il y en a un certain nombre, mais ça n'a rien à voir avec cette manne épistolaire qu'il a eue.
Et c'est à suivre le mois prochain. Et effectivement, en raison de sa longueur, mais Lovecraft ne mérite pas moins, cette passionnante chronique a été découpée en deux parties, dont nous diffuserons la deuxième au mois de juin. Et on va passer maintenant à la chronique de Geek Patrick. C'est parti. La chronique de Geek Patrick.
Alors, tout comme les invités des chroniques ont été prononcés dans le désordre, on change un petit peu l'ordre des choses aujourd'hui. C'est moi qui vais poser les questions, qui vais torturer Guy Patrick. De quel livre vas-tu nous parler, Guy Patrick?
Eh ben, je vais vous parler d'un classique de la science-fiction cette fois-ci. Un classique que j'avais jamais eu l'occasion de lire, en fait. C'est une lacune que j'ai réparée ce mois-ci. Et ce classique, c'est un roman intitulé « Des fleurs pour Algernon », qui a été écrit en 1964 par Daniel Keyes.
Bon, et de quoi cela parle-t-il?
Bonne question. En fait, je ne l'avais pas lu, mais j'ai vu il y a très longtemps une adaptation au cinéma qui avait été un succès mondial en 1969. Ce film s'appelait Charlie, c'est l'adaptation de Des fleurs pour Algernon. Je devais avoir entre 8 et 10 ans, et il faut savoir que j'avais vraiment été très profondément marqué par ce film, parce que le sujet est extrêmement fort. C'est l'histoire d'un jeune homme déficient intellectuel, en anglais on dit retard, attardé, etc., qui subit une opération chirurgicale révolutionnaire qui va permettre de développer son intelligence à un niveau presque jamais vu chez les êtres humains.
Bon, alors c'est quand même assez typique dans la SF. Pourquoi ouais. Cela t'a-t-il tant marqué?
Ah, ma chère Stéphanie, pour te répondre, je vais faire quelque chose que Jérôme déteste, qui est ma spécialité,
non,
ma
non,
marque de
tu
fabrique.
Vas pas faire ça.
Je vais spoiler l'histoire.
Ciel, un spoiler.
Alors, je vous suggère que mon nouveau pseudo soit désormais Spoil Patrick et non plus Geek Patrick, en fait, okay. Ce serait mieux. Cette histoire, c'est une tragédie. Et c'est pour ça que personne ne sort indemne de sa découverte, que ce soit au cinéma ou dans le roman. Parce qu'en fait, l'opération est un échec. Et cet homme, qui est devenu d'une intelligence presque jamais vue dans l'histoire humaine, va tout perdre et redevenir le déficient intellectuel qu'il était. Et il ne pourra rien faire pour éviter ça.
Bon, alors tant pis, tout comme Jérôme, je suis résignée.
Voilà.
Pour le suspense, on repassera.
Mais la lecture du livre m'a surpris, en fait. J'avais le souvenir très fort de l'adaptation cinéma de 69, que j'avais pourtant vue il y a quasiment 50 ans, hein. Ça ne nous rajeunit pas. Mais le livre développe des directions, alors soit que j'avais oublié, soit qui avaient été laissées de côté dans la version cinéma. Déjà, le livre est écrit à la première personne par Charlie lui-même. On lit donc des rapports quotidiens que les scientifiques lui ont demandé d'écrire pour analyser ses progrès. Et c'est par la façon d'écrire, par l'évolution de la façon d'écrire, que nous, lecteurs, nous sommes témoins des progrès extraordinaire de Charlie. Au début, les rapports sont bourrés de fautes, sont écrits de façon très naïve, mais aussi d'une façon qui exprime l'autre différence de Charlie, l'attardé entre guillemets, c'est son extraordinaire humanité, sa bonté naturelle sans aucune ombre. Et c'est cette humanité qui va être mise à rude épreuve à mesure qu'il va devenir intelligent. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il va voir revenir à sa mémoire des scènes de son passé avec sa mère, son père, sa sœur. et il va comprendre a posteriori l'immensité du rejet et des moqueries dont il a souffert toute sa vie. Et sa douleur de n'être pas considéré comme un être humain normal va littéralement lui exploser à la figure. Et cette souffrance, l'auteur Daniel Case, eh bien, il nous l'a fait, pleinement partagée par le génie de son écriture et par, bien sûr, les mécanismes humains fondamentaux qu'on connaît, l'empathie et l'identification.
Après, on n'a rien sans rien, hein, si on passe avec de l'intelligence. Donc, c'est un livre, exactement, en fait, qui sollicite nos émotions.
Ouais, mais ce n'est pas le seul axe de ce livre. En fait, il y a d'autres axes qui vont s'ajouter. Et déjà, il s'installe en Charlie une sorte de situation qu'on ne comprend pas de prime abord. Charlie a l'impression, de plus en plus souvent, au fur et à mesure que son intelligence se développe, d'être observé par quelqu'un, notamment quand il est dans des moments d'émotion forte. Et ce qu'il va finir par comprendre, c'est que c'est le Charlie d'avant, le Charlie pas intelligent, qui est là en permanence dans son esprit et qui le surveille. C'est quelque part le thème du dédoublement de personnalité que l'auteur Daniel Case va d'ailleurs développer complètement dans un roman de 2009 qui s'appelle « Les mille et une vies de Billy Milligan ». Donc on a le Charlie intelligent et le Charlie originel qui est tapi dans un coin et qui conserve, lui, tous ses blocages. Et c'est des blocages qui vont paralyser complètement le nouveau Charlie dans ses rapports, par exemple, avec Miss Kinyan, qui est son ancienne prof et dont il est totalement amoureux. Un amour réciproque, hein, d'ailleurs. Mais qu'ils ne peuvent pas consommer, hein, comprenez, tant que le Charlie d'avant les observe, parce qu'il les paralyse.
D'accord. Et quels sont les autres axes que tu as évoqués ?
En fait, c'est comme si l'auteur, Daniel Case, il faisait des tentatives, il ouvrait des portes sans pour autant développer beaucoup. C'est comme ça que, lors d'une séance de psychothérapie, Charlie décrit une expérience mystique. Alors là, je vais citer maintenant quelques extraits de ce roman. Là, je cite. « Une sensation de montée, comme une feuille dans un courant ascendant d'air chaud. » Toujours plus vite, les atomes de mon corps s'éloignent les uns des autres. J'explose en me précipitant dans le soleil. Je suis un univers en expansion. » Fin de citation. Mais encore une fois, c'est le Charlie d'avant qui va l'empêcher d'aller au bout et qui va le ramener au sol. Je cite, « Charlie ne veut pas connaître ce qu'il y a au-delà. A-t-il peur de Dieu ? De trouver Dieu ?» Charlie va alors revivre via l'évocation d'une caverne. Alors évidemment, là, c'est un peu gros sabot quand même, on pense au mythe de Platon, et il va vivre une sorte de renaissance traumatisante. Je cite à nouveau, « Quand je m'engage dans l'ouverture, je sens la pression autour de moi qui me propulse par ondes violentes de spasmes vers la bouche de la caverne. Elle est trop petite, je ne peux pas passer. J'ouvre les yeux, aveuglé par l'intense lumière, et je bats l'air de mes bras, et je tremble et je hurle. »
Donc cette renaissance, est-ce que c'est un peu le retour au point de départ, finalement ?
Oui, probablement, ça peut être aussi ça, l'annonce de ce retour inévitable. Charlie va oublier pan par pan tout ce qu'il a appris. Je cite à nouveau, « Il faut que je m'efforce de garder en moi un peu de ce que j'ai appris. Je vous en prie, mon Dieu, ne me retirez pas tout. »
Ça sent la tragédie grecque.
Ouais, totalement. Mais je vais finir avec une note positive, messieurs, dames. À un moment, le Charlie d'avant va cesser son contrôle. Le chemin du Charlie intelligent lui a permis de surmonter ses traumatismes. Et alors qu'il est en train de perdre son intelligence, il va pour la première fois pouvoir faire l'amour avec la femme qu'il aime, Miss Kinyan. Je cite, « Je ne prétends pas comprendre le mystère de l'amour, mais cette fois, c'est plus qu'un acte sexuel, que la jouissance donnée par le corps d'une femme. C'était être soulevé de terre, au-delà de la peur et des tourments. » Faire partie d'une entité plus vaste que moi-même. J'étais arraché de la sombre caverne de mon esprit pour fusionner avec quelqu'un d'autre. C'était le premier pas vers l'univers, au-delà de l'univers, dans lequel et avec lequel nous ne faisions plus qu'un pour recréer et perpétuer l'esprit humain. Expansion et explosion, rétraction et recommencement, c'était le rythme de la vie, de la respiration, du battement de cœur, du jour et de la nuit. » Fin de citation, je vais m'arrêter là.
Et Algernon, alors, c'est qui ?
Oui, Algernon, c'est la petite souris de laboratoire qui a reçu la première le traitement révolutionnaire. Elle est devenue incroyablement intelligente, mais c'est aussi elle qui, la première, va commencer à régresser. Et les fleurs, ce sont celles que Charlie met sur la tombe d'Algernon parce qu'elle n'a pas survécu à la régression. Alors, auteur de Calade Maradio, lisez « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Case. Vous m'en direz des nouvelles.
En effet, je l'ai mis de côté.
Merci.
À très bientôt.
La chronique de Geek Patrick.
Merci Patrick. Nous passons à présent du côté du roman policier avec Miss Lemon qui va nous présenter un détective privé, mais un peu particulier puisqu'il est portugais, ce qui n'est pas très courant.
C'est vrai.
Du moins, on n'en connaît pas beaucoup. Donc, à vous Miss Lemon.
« l'étoffe d'un héros. Je suis toujours ravie de vous revoir à 23 pas du mystère, cette belle équipe en pleine forme avec le printemps. Et à nouveau pour traiter l'aspect vestimentaire des héros du roman policier au populaire. Alors, Jérôme Patrick, de quelle étoffe le héros privé portugais Mário França, héros de l'auteur portugais contemporain Miguel Miranda, est-il fait ? Sera-t-il plutôt rugueux ou soyeux ? Nous allons pouvoir disserter de tout ça.
Formidable.
Aujourd'hui, donc, je vous présente le détective Mário França, créé par le romancier portugais Miguel Miranda. Donc moi, j'ai relevé 4 romans traduits en français mettant en scène Mário França. Ils n'ont pas été traduits par rapport à leur chronologie d'écriture en portugais. Et si je puis me permettre, je vous conseillerais de lire en premier L'étrange affaire du cadavre souriant, qui présente Mário França et tout son univers, qui est pour le moins surprenant et un petit peu olé olé, on va dire. Depuis le début de cette chronique, c'est le premier roman avec une narration à la première personne, en l'occurrence, Mário França en personne, un détective privé de Porto qui s'autoproclame un des meilleurs détectives du monde. Donc ça, c'est dans L'étrange affaire du cadavre souriant.
Et un des plus modestes.
Exactement, mais vous allez comprendre pourquoi. L'emploi du jeu donne un style très volubile, extravagant à ce personnage quand même du Sud, qui tranche vivement avec l'atmosphère des romans nordiques plutôt feutrés du Nord.
Oui, effectivement. Ouais. Oui.
Donc il est, Mário França est à la fois un personnage sympathique, plein d'humour, avare en description factuelle, ce qui est très contraire à, par exemple, Monsieur Wallander, l'inspecteur, et qui possède un ego fort, je vais citer, qui ne rentre pas dans son enveloppe corporelle. Ça, c'est sa psy qui lui a donné cette définition-là. Alors, on comprend en fait que ses rêves de grandeur lui permettent de ne pas sombrer dans la déprime du quotidien, c'est-à-dire les longues nuits de veille, recroquevillé sur le siège de sa voiture, pour finalement des filatures minables avec des honoraires très faibles, alors qu'il s'estime bourré de talent, et en fait il l'est, c'est vrai. Il est toujours en quête d'une vraie affaire qui contenterait son ego, remplirait son compte en banque, et finalement il trouve toujours des clients qui vont répondre à ses attentes. Donc il parle beaucoup de lui, Mário França, donc du coup il décrit aussi son style vestimentaire suite à ses contacts et de ses clients, donc on a un petit corpus textile qui est assez sympa. Cette fois-ci, donc, j'ai choisi le bureau en fait, de Mário França, dans lequel nous allons trouver tout pour passer inaperçu, c'est-à-dire il a un pantalon de serge, donc c'est quand même pas si voyant que ça, et une veste de sportswear qui lui permet de dégainer rapidement un revolver Arminus calibre 42, long, 7 coups, qui est toujours dans sa poche, mais rarement sollicité, heureusement. On va aussi trouver de la crasse à gogo avec des odeurs nauséabondes qui jaillissent des blouses et des blousons de ses indiques, des disques vinyles de Cat Stevens qui l'aident à se concentrer, une Ford Escort blanche à crédit à la mécanique assez peu fiable, et aussi des notes de pâtisserie à payer parce que les personnes qui le consultent ou qui viennent lui donner des informations mange des pastilles de nata, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des petits feuilletés avec du flan, on en trouve par ici, et qui font plein de miettes, donc ça c'est aussi décrit, et ils s'arrangent toujours pour partir les premiers du café et ainsi ne pas payer les additions. Voilà. On trouve aussi un grand choix de sièges et de divans complètement défoncés, et puis le mieux c'est quand même sa fenêtre sur le Douro, qui est le fleuve qui traverse Lisbonne, et dont la vue lui fait monter les larmes aux yeux. Et là c'est vraiment très chouette les descriptions. J'ai choisi délibérément son bureau, car c'est souvent l'emblème des détectives privés, et finalement, comme attendu, les clients y défilent et livrent des confessions plus ou moins vraies, ce qui n'est pas sans rappeler d'Achille Hamet ou Raymond Chandler. Donc, comme indiqué auparavant, malgré son caractère extraverti, Mário França se décrit dans le roman La disparition du cœur des symboles. Je suis moyen en tout, poids, taille, couleur des yeux et passe inaperçu au milieu de la foule. Personne n'arrive à se souvenir de mon visage. Celui qui cherche un détective tout en muscle type Terminator sera déçu. Celui qui attend un stéréotype de Colombo, voûté dans sa gabardine froissée, une cigarette à moitié éteinte au coin de la bouche, tout autant. De plus, en fait, il a été entraîné dans sa jeunesse à l'anonymat, aux arts martiaux, à la patience physique et mentale, parce qu'on apprend qu'il appartenait à une cellule révolutionnaire qui visait à faire basculer le gouvernement de la dictature de Salazar.
Années 70, c'était une vraie dictature qui rigolait pas.
Exactement. Donc Miguel Miranda, au travers de Mario França, décrit bien l'atmosphère des cellules de guérilla, dénonce les pratiques de la, police politique sous la dictature de Salazar, qui a dominé le Portugal à partir de 1933 jusqu'à sa chute à la révolution des œillets en avril 1974. Mario França nous confie aussi ses séquelles de révolutionnaires à travers des flashbacks dans les romans, et de ces séances de psy qui sont censées le délivrer de ce passé et qui le font partir en voyage dans ses peurs, je cite. Je n'en dis pas plus pour ne pas dévoiler l'intérêt des romans. Je ne spoil pas, contrairement à Patrick.
Non, il n'y a que moi qui spoil. Hein. Voilà. C'est ma marque de fabrique à
exactement.
Moi. N'imitez pas.
Et donc, toujours avec ce besoin d'échapper à tout, Mario França a un ordinateur super protégé de tout. Il loue un appartement par le biais d'un de ses indiques non déclarés. Communique avec son équipe quand même par pigeon voyageur. Qui transporte des clés USB, je tiens à le dire. Et lors de réunions d'équipe, tout le monde est banalisé dans des parcs publics. En balayeur, en jardinier, etc. C'est assez sympathique, les descriptions. Donc, de ce point de vue, il y a une petite touche de Sherlock Holmes avec les déguisements et puis aussi son esprit d'analyse, d'intuition et déduction. Et un petit peu d'Hercule Poirot parce que, bah, dans ce que j'ai lu, la vérité est révélée en pièces closes à l'assemblée des personnes qui sont les demandeurs. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc en conclusion, Mario França a vraiment l'étoffe d'un héros à tendance soyeuse parce qu'il a pittoresque, il a plein de descriptions anodines qui le rendent charmant, des digressions aussi sur son sixième et septième sens, et puis une capacité à charmer les femmes au cours de ses enquêtes qui est assez drôle en fait. Il a un peu ce côté Marlowe pour la séduction féminine, on va dire. Et puis on trouve un équilibre avec un côté rugueux parce que c'est quand même un combattant qui dort avec un pistolet sous son oreiller, parce que ces vieux démons l'attendent quand même la nuit. Je vous invite à lire ces romans qui dépeignent un personnage très attachant, à un humour très sympa, et puis on constate l'amour de l'auteur pour la ville de Porto et de ses enquêtes sympathiques. Et vraiment, on aurait envie d'aller à Porto. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.
Merci, Miss Lemon. Chers auditeurs, chères auditrices, il est malheureusement temps de nous quitter. Ne manquez pas de jeter un œil sur notre podcast, donc sur radiocalade.fr, dans la rubrique émissions culturelles.
Radio-calade-du-6.fr.
Vous allez retrouver toutes les références des ouvrages qui ont été évoqués lors de cette émission, plus d'autres références et des liens Internet. Tout pour tout savoir sur ce dont nous avons parlé. On se retrouve le mois prochain avec un dossier, avec un invité, un dossier pour commémorer les 80 ans de la série noire de Gallimard.
Ah, chouette.
Et puis, nous aurons bien sûr nos chroniqueurs préférés, Spoil Patrick, voilà. Qui a oublié de nous dire de quoi
mignon.
Il allait parler.
Eh bien, je ne sais pas encore. Voilà, ce sera une surprise, comme d'habitude.
Il y aura quelque chose sous le coude. Miss Lemon nous parlera d'une justicière masquée.
Ah oui, il faut passer un peu
jeunesse.
Aux femmes, quand même.
Oui, et Gilles Poussin nous parlera d'un grand dessinateur américain, Alex Raymond, le créateur des séries Flash Gordon, Guy Leclerc chez nous, et Rip Kirby, un enquêteur.
Oui. D'accord.
Voilà, c'est tout. À bientôt. Merci.
À très bientôt.
De Calanma Radio, bonne fin de journée.
Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar. La science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.